archipéliens sont parmi nous.
Bonsoir Sébastien Bizet.
Bonsoir.
Ravi de vous accueillir pour cette séquence archipel qui sera largement consacrée à une pierre blanche de l'archipel, à savoir une figure emblématique de la musique électroacoustique en France en particulier. Il s'agit de François Bell, un nouveau coffret qui paraît publié par l'INA et qui donc est le centre de votre intérêt ce soir.
Oui, puisque nous venons de recevoir ce coffret que nous souhaitons vraiment mettre en évidence, puisqu'effectivement il s'agit d'une pierre blanche de l'archipel, hein, comme personnalité phare, figure emblématique de la musique électroacoustique. Donc François Bell, rappelons-le, fut l'élève d'Olivier Messiaen, évidemment de Pierre Schaeffer au GRM, aussi de Karl Stockhausen à Darmstadt au début des années 60. Il a rejoint le GRM à la fin des années 50, en 58, et puis il s'est vu confier la gestion, la responsabilité du centre jusqu'en 1966. Ensuite, le GRM a été intégré à l'Institut National d'Audiovisuel fraîchement constitué. Il a été à la tête de ce département jusqu'en 1997. Donc, il a apporté beaucoup de développement, etc. Donc forcément, c'est quelqu'un d'incontournable. Je propose peut-être d'écouter une première œuvre, une œuvre, j'ai envie de dire, presque de jeunesse, puisque selon lui, c'est sa première vraie œuvre. Il s'agit de Jardin de Rien, qui a été enregistré en 1967 et qui participe d'un cycle nommé Espace inhabitable.
Des débuts de François Bell, Jardin de Rien, extrait du cycle Espace inhabitable, extrait donc de ce coffret de 15 CD que l'INA a publié tout récemment, qui fait un parcours dans l'œuvre de François Bell avec les œuvres majeures. Évidemment, il n'y a pas tout, c'est un compositeur extrêmement prolifique. Sébastien Bizet, donc une pierre blanche de l'archipel, personnalité de l'acousmatique vraiment phare. Hein.
Oui, il y a quand même 15 CD dans ce coffret, donc il y a vraiment, effectivement tout n'est pas là, mais c'est assez représentatif de l'évolution du parcours du compositeur. Dans l'œuvre qu'on vient d'entendre par exemple, on entend déjà cette espèce de confrontation entre des sons non anecdotiques et des sons plus figuratifs, hein, ce qui est vraiment au centre de la réflexion acousmatique, j'aurai l'occasion d'y revenir. Ce qu'on entend ici, c'est une œuvre qui est basée sur des critères énergétiques du passage du fluide au solide, donc de mutation d'un état à l'autre. Alors, on l'entend pas très bien ici, forcément, mais c'est une œuvre qui demande à être spatialisée. C'est une œuvre stéréophonique, c'est déjà assez novateur ou innovant pour l'époque, mais effectivement l'œuvre de François Bayle est tout entière caractérisée par cette volonté de rendre les sons non seulement en mouvement dans le temps, ce qui est le propre évidemment de la musique, mais aussi dans l'espace, ce qui est aussi le propre de la musique. On a tendance à oublier parfois ce second aspect que nous on essaye dans Archipel évidemment de mettre en valeur, en évidence dans notre îlot espace. Et donc, ce qui intéresse le compositeur par-dessus tout, c'est ce déplacement des sons autour des oreilles de l'auditeur, et donc de vraiment sonder toutes ces possibilités liées à la spatialisation. Donc, François Bayle s'est consacré véritablement corps et âme à la musique électroacoustique, musique concrète, comme on l'appelait alors, musique acousmatique aussi, pour reprendre un autre terme sur lequel je m'arrêterai dans quelques instants. Donc, vraiment, ce qui intéresse le compositeur, et c'est très important pour la réflexion sur la musique en général, c'est de dépasser l'orientation traditionnel du spectateur devant l'œuvre, vraiment devant, de manière frontale, qui est une attitude du regard. Hein. On a tendance à écouter un concert comme on le regarde, c'est-à-dire être frontalement disposé à lui, par rapport à lui. Là, ce qui intéresse le compositeur, c'est vraiment de rendre à l'oreille toute sa potentialité, toute sa dimension complexe liée à la spatialisation. Alors, Bayle a marqué l'INA GRM d'un certain nombre de développements forcément liés à des outils informatiques, mais aussi par la création de l'acousmonium justement. L'acousmonium, c'est donc cet orchestre de haut-parleurs de différentes couleurs qui sont disséminés dans l'espace, qui permet un espace de projection à pénétrer, une espèce de polyphonie spatialisée, et donc qui permet la mise en scène du son. Et le compositeur, à ce moment-là, n'est plus vraiment un musicien, c'est un spatialisateur, c'est un interprète déjà, ouais. Parce que l'œuvre est sur support. Lui se contente, j'ai envie de dire, avec des guillemets, de spatialiser, de diffuser l'œuvre dans cet espace. Alors, une petite précision aussi, hein, j'évoquais le terme d'acousmatique. Précisons que ça n'est pas une nouveauté. L'idée d'acousmatique, c'est un mot grec hein, qu'on doit à Pythagore qui donnait ses cours derrière une tenture pour éviter que ses disciples, ses élèves, se concentrent sur son corps, donc sur l'aspect visuel du cours, et bien sur les mots, hein, donc sur le sens. Donc ça, c'est quelque chose qui date vraiment, cette idée acousmatique, qu'a reprise forcément Pierre Schaeffer, qui a développé la notion d'écoute réduite, donc une conception phénoménologique du son, en revenir au son pour lui-même, en se dégageant le plus possible de l'anecdote. Donc il s'agit vraiment pour ces compositeurs de séparer l'objet sonore de l'objet qui produit, de la source sonore. Alors on va écouter un autre extrait, un peu plus tardif, fin des années 60, qui participe d'un cycle intitulé « L'expérience acoustique ». Cet extrait s'intitule « Match nul ». On va entendre une espèce de confrontation entre l'homme et la nature.
Thank you.
Voilà, si Olivier Messiaen avait été avec nous, il nous aurait dit qui étaient les oiseaux que nous avons entendus dans ce match nul de François Bell, une pièce qui met donc en relation l'homme et la nature. C'est toujours extrait de ce coffret François Bell, 50 ans d'acousmatique, publié par Lina. Sébastien Bizet, c'est de ce coffret dont vous nous parlez ce soir.
Oui, alors ce qu'on a entendu ici, ce match nul, c'est assez intéressant de voir que c'est une composition assez narrative. Il y a presque une histoire qui se joue là. Et c'est vraiment la création d'un espace qui a guider l'œuvre, hein. C'est vraiment un espace, un paysage sonore qui est créé. Alors c'est très intéressant, je trouve, de constater avec ce genre de pièce que la notion d'espace est fondamentale pour l'imagination de l'auditeur. C'est beaucoup moins le cas avec le temps. Hein, ce sont là les deux facettes de l'idée musicale, l'espace et le temps. L'espace, on l'oublie souvent, je l'ai dit. Pourtant, à mon sens, c'est vraiment ce qui crée l'imaginaire, c'est ce qui crée la dimension presque visuelle de cette musique. Alors, c'est pas inintéressant de voir qu'il a justement consacré un cycle au temps, qu'il essaie de représenter le temps, de le formaliser, donc d'en donner une dimension visuelle. On sait que dans l'histoire des cultures, le temps a été représenté de plein de manières, des flèches linéaires ou des cercles, des boucles ou des spirales. Bon, lui, il a considéré le temps comme un cercle. Il a intitulé un de ses cycles « La forme du temps est un cercle ». C'est très, très explicite. C'est un cycle plus tardif, fin années 90, début années 2000. Je propose peut-être d'écouter un dernier extrait de François Bell qui s'intitule « Cercle », qui est donc une figure acoustique, une figure sonore du temps, une représentation sonore du temps. Thank you.
Le temps décrit en son et en espace, selon la formule inventée par François Bayle. Ici, cercle extrait de La forme du temps est un cercle. Là, on est dans une période récente de l'œuvre de François Bayle. Il faut rappeler qu'il est né en 1932, donc il a plus de 80 ans aujourd'hui. Et il est toujours actif. En tout cas, le coffret de l'INA, qui comporte 15 CD, donc retrace son parcours au travers de 4 périodes. La dernière période étant consacrée à l'octophonie. Donc, comme vous le disiez, cette spatialisation avec l'acousmonium, qui est donc cet outil qu'on connaît aussi par le Centre Musique et Recherche et ses fréquents concerts.
Oui, Sébastien. Effectivement, si l'INA GRM est un lieu de création unique, de recherche, de préservation aussi d'un certain patrimoine audio, enfin, musique électroacoustique, on pourrait se demander si on a l'équivalent chez nous en Belgique. Bon, on a effectivement le Centre Musique et Recherche à Oin, qui là aussi dispose d'un acousmonium, qui enseigne, c'est un centre d'enseignement, un centre de recherche, de création, donc dirigé par Annette Van der Gorn. Alors il y a un autre centre que j'aimerais évoquer, très différent, mais tout de même, en termes de laboratoire, c'est intéressant de le rappeler. C'est l'Institute for Psychoacoustics and Electronic Music de l'Université de Gand.
Qui lui est nettement plus ancien, je crois.
Oui. 63, oui. Démarré en 63. Mm-hmm. Et donc c'est un laboratoire de recherche sonore qui est lié au département de musicologie, art, musique, théâtre de l'Université de Gand et qui constitue quelque part une espèce de base ou d'appui scientifique pour le secteur culturel, artistique, musique, art de la scène. Et ce qui intéresse vraiment ce centre, c'est ce pont, cette relation entre la musique et les nouvelles technologies. Alors, en commémoration du 50e anniversaire de cet institut, le label Métaphon présente un livre de 88 pages, très bien illustré. Donc, c'est un livre bilingue, anglais-néerlandais. Et donc, pas mal de photos noires et blancs. C'est très, très révélateur des travaux et du matériel aussi dont disposaient ces chercheurs à l'époque. Et ce livre est accompagné de 2 CD. De compilation avec des œuvres de Lucien Goutals, Louis de Meester, David van de Woestijn, Karel Goeyvaerts, Yves Nocard, Stéphane Montaigu, qu'on aura l'occasion d'entendre, entre autres musiciens. Ce sont toutes des compositions qui ont été écrites, enregistrées entre 1963 et 1999. La plupart sont inédites forcément et viennent des bandes originales. Alors, au niveau historique, c'est important puisque cet institut pour la recherche psychoacoustique et électronique en musique a été fondé en 63 par l'Université de Gand en collaboration avec la radio-télévision belge, donc la RTB. Et c'était vraiment considéré comme un studio de création, un institut de recherche où on pouvait combiner l'ingénierie musicale avec la production, donc vraiment recherche artistique et recherche scientifique. Alors je pense qu'historiquement, il y a eu une espèce de schisme entre cet institut et la RTB, dans le sens où on avait d'un côté des universitaires avec des compositions très pointues, vraiment de la recherche presque fondamentale, et d'un autre côté, on avait un souci d'audience et de diffusion. Et donc je crois qu'à un certain moment, l'institut s'est séparé de cette relation mère hein, avec la radio-télévision belge pour finalement se contenter d'être un centre lié au département de musicologie de l'Université de Gand, un centre qui est toujours actif dans la recherche scientifique, dans le domaine toujours de la psychoacoustique, mais aussi maintenant des technologies multimédia, interactifs et leur application. Donc, vraiment, on voit à la fin de cet ouvrage d'ailleurs les nouveaux outils développés au centre. Alors, il y a deux CD, la plupart des pistes sont assez brut, vraiment très, je le dis, presque de la recherche fondamentale, mais de très grande qualité. Je vais proposer une piste un peu plus sensible, j'ai envie de dire, dans le sens où on va l'entendre, c'est presque un travail instrumental, vraiment sur la mélodie, sur le timbre. C'est une œuvre de Stephen Montaigu, qui est un compositeur américain, qui est pianiste à l'origine et qui s'est orienté vers la musique électroacoustique. C'est une pièce de 1982-1983, donc enregistrée à cet Institute for Psychoacoustics and Electronic Music de Gand. Thank you.
Voilà, cette musique électronique qui a été réalisée à l'IPEM, cet institut gantois qui est aujourd'hui complètement attaché à l'université de Gand et qui reste un centre très actif, Sébastien Bizet.
Oui, notamment en termes d'organisation de conférences, de colloques et autres. Donc cet objet publié là, ce livre, ces CD sont vraiment une belle manière de rentrer dans la matière de ce laboratoire qui est assez méconnu finalement, mais dont les productions vraiment valent de tendre l'oreille simplement. Qui sont de grande qualité, même si, je le répète, ça peut, pour certaines pistes, heurter ou intriguer, puisque vraiment c'est quelque chose d'assez assez ardu, assez pointu.
Alors on rappelle la maison d'édition de cet ouvrage.
Métaphon.
Métaphon, et donc c'est à l'occasion du 50e anniversaire de l'IPEM, et puis ce coffret François Bayle que vous nous avez apporté également, qui est un coffret édité par l'INA. Merci Sébastien Bizet, à la semaine prochaine.